L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Bonjour à toutes et à tous, après une semaine de pause, on se retrouve pour l'actu sur un plateau le jeudi midi en direct et le vendredi à 19h pour la rediffusion. On va continuer de balayer l'actualité locale, qu'elle soit culturelle, politique, associative ou bien encore environnementale. Cette semaine, on va notamment s'intéresser à la marche pour le climat qui aura lieu à Millau ce samedi 12 mars à 14h, place de la Capelle. On s'intéressera également au planning familial de l'Aveyron, qui organise une soirée ce 12 mars également, à Prégrand, pas très loin de Villefranche, pour le lancement d'une caisse de solidarité en soutien aux IVG hors délai. Et on ne manquera pas non plus de parler de l'Ukraine sous l'angle de l'humain. On ne rentrera donc pas, en tout cas pas aujourd'hui, dans des débats géopolitiques. Et dans ce programme alléchant, il y aura également quelques respirations. Comme lors des dernières émissions, on va continuer avec des surprises. Vous pourrez découvrir la première chronique de Renaise qui va mettre le bazar sur notre plateau. Et Basile nous proposera une nouvelle chronique musicale. Je vais d'ailleurs tout de suite laisser la parole à Hugo et Basile pour l'agenda des trucs à faire sur le territoire.
Les rendez-vous de Radio Larzac.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'agenda des trucs à faire sur Millau et ses alentours en ce début de semaine. Le collectif Parentalité de Millau organise une conférence sur le thème « Comment accompagner son enfant dans l'apprentissage ». C'est jeudi 10 mars à 20h15 à la salle René Rieu à Millau, ou bien il y a la possibilité de participer à la conférence en visio. L'accès à la salle René Rieu est ouvert à tous et à toutes, et pour la visio, l'inscription est nécessaire.
Comme toutes les semaines, programme chargé au Pivert, jeudi 10 de 17h à 18h. Comme chaque semaine, retrouvez le marché de producteurs locaux sur le parking du Pivert et à partir de 18h30, un apéro-concert gratuit de Pépé Punk, chanteur-guitariste auvergnat issu de la scène blues-rock. Vendredi 11, soirée tango argentin avec l'association Danse et Moi. Initiation tango de 19h à 20h et à partir de 21h, Milonga. Samedi 12, soirée dansante animée par l'association SBKR 2.0 sur le thème Carnaval de Rio. À 20h30, une initiation afro-zumba, samba. Et à 21h, rien à voir. À 21h, soirée dansante salsa bachata, kizumba, rock plus show des danseuses de samba Mio et la participation est à prix libre.
La galerie d'art Passage à l'art vous invite au vernissage de sa toute nouvelle exposition « Singulière et mystique » de l'artiste peintre Lo, vendredi 11 mars à partir de 17h30. Les œuvres seront exposées jusqu'au 15 avril sur les heures d'ouverture de la galerie, le mercredi et le vendredi de 15h30 à 18h30.
Vendredi 11 mars, au Théâtre de la Maison du Peuple, retrouvez Ubu Roi d'Alfred Jarry de la compagnie Du Jour au Lendemain et mise en scène par Agnès Régolo. Le public de théâtre a pu découvrir le père Ubu sous des formes complètement différentes et c'est maintenant sous une forme très rock'n'roll que la metteuse en scène marseillaise propose sa vision. Mêlant deux musiciens à la joyeuse troupe de comédiens, Agnès Régolo accentue encore ce côté rock et fou. L'ensemble des comédiens mettent une énergie folle à donner vie à ce monde burlesque et absurde où totalitarisme rime avec besoin de profit infini. Les tarifs pour les places vont de 12 à 32 euros. Les réservations se font du mardi au vendredi de 10h à midi et de 14h à 18h30, aussi une heure avant le spectacle. Et juste avant le spectacle, à 19h15, une lettre en soutien au peuple ukrainien aura lieu au travers des mots poignants du metteur en scène Vlad Troïtski.
Et et la Ligue de protection des oiseaux propose une aventure nature pour découvrir des rapaces nocturnes dans le cadre de la Nuit de la Chouette. Au programme, présentation de la biologie de ces espèces et sortie nocturne sur la commune de Saint-Rome-de-Cernon. Le rendez-vous est vendredi 11 mars à 19h à Montclara. Pour vous inscrire et avoir plus d'informations, n'hésitez pas à chercher Nuit de la Chouette Saint-Rome-de-Cernon sur internet.
À partir du samedi 12 mars au 25 rue Antoine-Guy, la galerie Le Salon accueillera l'exposition Gestes marins, composée de photographies de Yanka Loulek. La galerie Le Salon est ouverte les jeudis, vendredis et samedis de 15h à 18h et ce jusqu'au 2 avril.
Samedi 12 et dimanche 13 mars, le restaurant Café-Concert La Loco ouvre ses portes pour accueillir le Printemps des Poètes. Le thème de cette année sera l'éphémère. Au programme, une multitude d'activités très diversifiées avec ateliers d'écriture, lecture, slam, initiation à la peinture aborigène, danse et beaucoup d'autres choses autour de la poésie et de la libre expression. L'atelier d'écriture du samedi 12 mars se déroulera de 15h à 18h et sera animé par Jean-Marie de Crozal, sur inscription au tarif de 10€.
Samedi 12 mars, à la ferme du Prégrand à Morlon-le-Haut, une soirée de soutien à la Caisse de solidarité des avortements hors délai interdépartemental d'Occitanie se tiendra. Discussion contraception thermique, projection, échange, concert, exposition, repas à prix libre avec la cantine solidaire, buvette, une zone de camping pour tente ou véhicule, DJ set et surprise. Vous pourrez y faire des dons sur place par chèque ou en espèces ou par virement si vous ne pouvez pas vous y rendre.
Et pour finir, dimanche 13 mars, le Masrazal ouvre ses portes pour un impromptu poétique sur un poème de Blaise Cendrars, Panama ou les aventures de mes sept oncles, joué par la compagnie Les Planches du Salut. Le rendez-vous est à 18h pour l'apéro, pré-spectacle avec soupe chaude et buvette et la pièce commence à 19h. La participation aux frais est de 10€. Merci de nous avoir écoutés et bonne fin de semaine à tous.
Merci Hugo, merci Basile pour cet agenda de fin de semaine. Basile, on te retrouvera un peu plus tard dans cette émission pour ta chronique musicale. Et avant de parler de l'actualité locale, je ne pouvais commencer cette émission sans avoir une pensée pour ces hommes, pour ces femmes et pour ces enfants qui subissent la guerre. Je suis d'ailleurs tombé sur un article fort intéressant écrit par la cantine syrienne de Montreuil et j'ai très envie de vous en faire la lecture afin d'apporter un autre éclairage au conflit actuel en Europe de l'Est, sous un angle humaniste et internationaliste. Allez, c'est parti. Je commence la lecture donc. Nous savons que cela peut sembler difficile de se positionner dans un moment comme celui-ci, entre l'unanimité idéologique des médias dominants et les voix qui relaient sans scrupule la propagande du Kremlin. On ne sait plus qui écouter. Dans ce qui suit, nous n'entendons pas comparer ce qui se passe en Syrie et en Ukraine. Nous comptons plutôt, à partir de nos apprentissages de la Révolution et puis de la guerre en Syrie, proposer quelques pistes afin d'aider ceux et celles qui défendent sincèrement des principes émancipateurs à prendre position. Ensuite, donc, la cantine syrienne a listé une série donc, de points. Donc, premier point, écouter les voix des premiers et des premières concernées par les événements, plutôt que les experts en géopolitique, écoutons avant tout la parole de ceux et celles qui vivent la guerre, écoutons ceux et celles qui souffrent du régime de Poutine en Russie et ailleurs depuis 20 ans. Deuxième point, se méfier de la géopolitique de comptoir. Cela pousse les gens normaux comme vous et nous à éclipser les protagonistes ordinaires du conflit, ceux et celles qui nous ressemblent. N'oublions surtout pas ce qui va se passer avant tout, c'est que des gens vont souffrir à cause des choix de gouvernants qui prennent le monde pour un échiquier et pour un réservoir de ressources. Avant de lire le troisième point, je vais quand même commenter un petit peu. On peut, je pense, donc saluer le travail des associations qui œuvrent pour l'accueil des réfugiés ukrainiens, plus de 2 millions selon les derniers chiffres de l'ONU. On peut également remercier la générosité des différents convois humanitaires menés même ici depuis Millau par Emmaüs, également le comité de jumelage Millau-Poplaine. Nous recevrons d'ailleurs Emmaüs dans notre émission la semaine prochaine. Mais d'ici là, vous pouvez continuer de faire des dons au comité de jumelage du lundi au vendredi de 16h à 19h et le samedi de 10h à 20h. Car ils partent ce lundi 14 mars en Roumanie pour apporter tous ces dons et ramèneront des réfugiés à leur retour. Cette question des réfugiés est en train de changer de dimension, ce qui m'amène au troisième point rédigé par la cantine syrienne de Montreuil. Donc troisième point, n'acceptez aucun tri entre bons et mauvais exilés. Les images de réfugiés noirs refoulés à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, ainsi que les commentaires dans les grands médias privilégiant l'arrivée de réfugiés ukrainiens, entre guillemets, de grande qualité par rapport aux barbares syriens, ne sont rien d'autre que des preuves d'un racisme européen de plus en plus décomplexé. Si nous défendons un accueil inconditionnel, donc c'est la cantine syrienne qui le dit, pour les Ukrainiens qui fuient les horreurs de la guerre, nous refusons toute hiérarchisation entre les réfugiés. Ensuite, quatrième point, se méfier de la position des médias mainstream. On ne donnera la parole aux réfugiés ukrainiens que pour parler de cas individuels, de fuites, de la peur des bombes, etc. C'est une position incapable de penser les Ukrainiens comme des acteurs et des actrices politiques à part entière, capables d'exprimer des opinions ou des analyses politiques sur la situation dans leur propre pays. Je vais commenter donc sur cette partie média en tant que journaliste, parce que d'un côté on a donc Russia Today et Sputnik qui vont faire la propagande du Kremlin, et de l'autre côté, la plupart des médias occidentaux qui vont développer une vision assez occidentale du conflit. Rappelons donc par contre que la position du Kremlin donc, ne peut plus être entendue en Europe puisque l'Union Européenne a interdit ces deux chaînes que sont Russia Today et Sputnik. On va poursuivre donc maintenant avec le cinquième point, ne pas faire des pays occidentaux l'axe du bien. Si ce ne sont pas eux directement qui envahissent l'Ukraine, privons-nous de toute naïveté concernant l'OTAN et les pays occidentaux. Rappelons s'il le faut que l'Occident a lui-même basé sa puissance, et continue de le faire, sur le colonialisme, l'impérialisme, l'oppression et la spoliation des richesses de centaines de peuples dans le monde entier. Aujourd'hui, même si le régime de Poutine représente une menace plus importante pour l'autodétermination des peuples, ce n'est pas que les pays occidentaux seraient devenus subitement gentils. Ce qui m'amène maintenant au sixième point, donc rédigé par la cantine syrienne de Montreuil, combattre tous les impérialismes. Comme ils l'ont fait en Syrie, certains utilisent le prétexte que les régimes russes ou syriens incarneraient la lutte contre l'impérialisme occidental. Malheureusement, cet anti-impérialisme manichéen, essentiellement théorique, refuse de voir l'impérialisme chez d'autres acteurs que l'Occident et notamment la Russie. Maintenant, le septième point, ne pas renvoyer dos à dos l'Ukraine et la Russie. En Ukraine, l'identité de l'agresseur est connue de toutes et tous, c'est le régime de Poutine. Si l'offensive de Poutine répond quelque part à la pression de l'OTAN, elle est avant tout la poursuite d'une offensive impériale. Le huitième point, maintenant, comprendre que la société ukrainienne, comme en Syrie, comme en France, est traversée de différents courants. Nous connaissons bien le procédé qui consiste, donc je cite la cantine syrienne, nous connaissons bien le procédé qui consiste à désigner une grande menace pour effrayer les soutiens potentiels. La rhétorique du terrorisme islamiste en Syrie, utilisée par Bachar al-Assad. Aujourd'hui, le nazisme et l'ultranationalisme brandis par Poutine et ses alliés. La menace de l'extrême droite qui était brandie face aux gilets jaunes également en France. En Ukraine, c'est vrai que des nationalistes ukrainiens, parfois fascistes, ont eu un rôle important dans les manifestations de Maïdan en 2014 et dans la guerre contre la Russie qui s'en est suivie. Cela ne signifie pas pour autant que toute la société ukrainienne, ni même la majorité, soit ultranationaliste ou fasciste. L'extrême droite n'a fait que 4% par exemple aux dernières élections et le président ukrainien n'est pas d'extrême droite. Neuvième point, soutenir la résistance populaire en Ukraine et en Russie, comme l'ont prouvé les révolutions arabes, les gilets jaunes ou Maïdan, les soulèvements du 21e siècle ne sont et ne seront pas purs idéologiquement. C'est pour ces raisons qu'en Ukraine, la cantine syrienne donc appelle à soutenir en priorité les initiatives qui proviennent de la base. On pourrait y découvrir que souvent des gens qui s'auto-organisent peuvent défendre dans les faits les conceptions radicales de la démocratie et de la justice sociale, même si ils et elles ne se disent pas de gauche ou progressistes. Le dixième et dernier point, construire un nouvel internationalisme par le bas, c'est la position donc que porte la cantine syrienne. Cela signifie lier les révoltes et les combattants pour l'égalité dans le monde entier. Pour lire plus en détail cette analyse de la cantine syrienne de Montreuil, vous pouvez aller sur cantinesyrienne.fr. Je ne commenterai pas plus la situation en Ukraine, mais nous serons la semaine prochaine avec Emmaüs Millau afin de continuer à développer cet angle humanitaire. Et on se retrouve pour la suite de l'actu sur un plateau dans un instant. Après l'histoire se répète de Kenny Arcana, on dit non à la guerre.
On a dit non à la guerre, personne n'écoute, personne n'entend. Avant tout enfant de la terre, les frontières ne sont qu'illusions. Une seule et même planète, une humanité aux mille facettes, une humanité aux mille couleurs, une humanité qui meurt dans sa chair. On a dit non à la guerre, non à la famille, non à la peur de l'autre, non à obéir à la hiérarchie lorsqu'elle prononce des paroles de mort. Du sud au nord, qu'est-ce qu'on honore, quelles sont les valeurs? L'autre est ton miroir, frapper son reflet, c'est se frapper soi-même, il brisait ses plus de 7 ans de malheur. Et l'histoire se répète, et l'histoire se répète, et l'histoire se répète, et l'histoire se répète. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. À la guerre, non à la spirale meurtrière. C'est toujours les civils qui payent et toujours les mêmes erreurs qu'hier. Dis-moi qui a son cœur est fidèle et je te dirai qui pense par lui-même à l'ombre d'une querelle millénaire. Il ne tient qu'à nous pour rejoindre la lumière. On a dit non à la mort de l'autre, non à la haine, non au rapport de force, non aux troupes armées d'une vengeance à vivre. Dites des terroristes qui leur vend leurs drogues, qui leur vend leurs armes. C'est bien plus rentable tirer des engins que de faire la paix. Trouver des ennemis, l'innocent meurtri, il deviendra demain. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. À la guerre, à la guerre, on a dit non. On a dit non à la guerre, non à la perte humaine que vous dites collatérale, non à l'exploitation de la misère qui pousse à traiter les hommes comme des rats. La tête sous l'eau avant de voir le danger, on le perçoit à la forme des vagues. On ne résout rien à exprimer des pulsions à la force des flammes. On a dit non à la guerre depuis qu'on a l'âge de comprendre. Part en prison pour une bagarre quand ton pays ne parle que de vengeance, de l'art d'être impitoyable. Légitimise ses attaques avec des tas de palabres qui n'ont rien de vrai quand les bombes éclatent. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre, on a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre, on a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre, on a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre, on a dit non.
L'actu sur un plateau, ça continue sur Radio Larzac. La Covid, puis maintenant l'invasion de l'Ukraine par Poutine, ont accaparé nos pensées, mais l'urgence climatique et sociale est toujours là. Ce samedi 12 mars, ce sera une journée de marche au pluriel pour le climat. Il y en aura une à Millau à 14h, place de la Capelle.
L'invité de l'actu environnemental.
On reçoit la Fédération pour la vie et la sauvegarde des Grands Causses. Bonjour Philippe et Michel.
Bonjour.
Bonjour.
Quel est un peu le contexte de cette nouvelle marche pour le climat ?
Donc c'est pas le premier événement que nous organisons, oui, puisque nous avons déjà organisé plusieurs marches pour le climat. Donc c'est la poursuite d'une action dont on sait qu'elle va être très très longue et très difficile, puisque actuellement on se rend bien compte que par rapport à l'urgence climatique, il y a peu de choses qui sont faites. Donc il est toujours important de continuer à essayer de mobiliser les gens, parce qu'on s'aperçoit que du côté des politiques, aussi bien que du côté des entreprises, etc., il n'y a rien qui se fait proportionnellement à ce qui serait nécessaire de faire.
Ça n'a pas beaucoup bougé en 20 ans, en 30 ans.
Non, en 20 ans, 30 ans, oui. On peut dire que, bien qu'on sache qu'on va inéluctablement vers des problèmes très très importants et qui se rapprochent de plus en plus, on s'aperçoit que ça reste un vague sentiment. Les gens, on est pour le climat, on est pour, oui, on se rend compte, et puis il n'y a rien qui change.
Et quelle forme va prendre donc la marche pour le climat que vous organisez à Millau ce samedi ? Il y a un parcours qui est défini ?
Alors il y a un parcours qui est défini, oui.
Oui, partant de la place de la Capelle à 14h, où un discours d'introduction sera sûrement donné. Ensuite, on partira sur l'avenue Gambetta pour de rejoindre le carrefour de Cœur-Plat. Et on longera le Tarn par le quai. Et ensuite, on traversera le pôle Larzac, le giratoire de la CNRN 9. On descend sur le pont Le Rouge pour finir, pour rejoindre après le Mandarou par le boulevard des Eoles. Où là aussi, quelques discours seront donnés pour terminer la manifestation.
Et vous l'organisez avec d'autres acteurs du territoire, cette marche ?
Alors là, non. Disons que nous, on est à l'initiative. C'est une marche nationale. Oui. Et donc, il y a des marches du même type, le même jour.
Dans un grand nombre de villes en France.
Voilà, exactement. Dans un très grand nombre de villes. Et donc, nous, en tant qu'association environnementale, nous avons de suite décidé de participer à cette marche et donc de les organiser depuis qu'elle s'organise. Comme nous avions aussi relayé le message des coquelicots il y a quelques années, oui, hein. quand le message était là. Et effectivement, au départ, sur Millau, on est grosso modo la seule association qui relaie ce type de message.
Une marche en plus d'autant plus importante que le dernier rapport du GIEC paru il y a peu a été un peu passé sous silence avec l'actu international.
C'est cela. Oui, tout à fait. Alors c'est évident qu'on est obligé de se mobiliser. Bon, l'Ukraine, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui est excessivement important et puis qui nous réveille un petit peu par rapport à une situation à la situation de certains pays. Mais du coup, ça fait passer en arrière pas mal d'autres problèmes qui risquent d'être des problèmes bien plus compliqués encore que ce que nous voyons sur l'Ukraine.
Avec également de grandes vagues de réfugiés qui pourraient être provoquées également par la crise climatique.
Oui, bien sûr. Puisqu'on sait que, de toute façon, le problème de la crise climatique, les gens ont l'impression que, bon, ça va faire 2 degrés de plus chez nous. C'est pas très, très... 2, 3 degrés. Mais... Bon, d'abord, ils ne se rendent pas compte que c'est quelque chose qui va progresser à mesure dans le temps, qui va être très long, puisque ça va durer certainement, même en prenant toutes les mesures, plusieurs siècles, et on aura déjà des mesures très très importantes à prendre, puisque de toute façon, à l'étape où nous sommes, le changement climatique est déjà en cours et va s'accélérer quoi qu'on fasse.
Quoi qu'on fasse, surtout si on ne prend pas de mesures.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, donc c'est totalement affligeant de s'apercevoir qu'on est à une élection présidentielle où on ne parle pratiquement pas de ces problèmes-là. On est en permanence... les médias nous parlent des problèmes des migrants, des problèmes des
tous les problèmes sécuritaires qui reviennent à chaque élection présidentielle.
Les problèmes des musulmans, alors que le gros problème que nous allons avoir à vivre, c'est pas les musulmans. Le problème, c'est le changement climatique.
Et votre marche, elle traite également des problèmes sociaux également, parce que c'est justice climatique et sociale dans l'appel.
Oui, parce que De toute façon, on ne pourra pas résoudre les problèmes du réchauffement climatique si on ne parle pas aussi du problème social, parce qu'il va y avoir des problèmes très très importants au niveau de la société. Et donc il va bien falloir les résoudre aussi, parce que sinon on va vers des explosions sociales très très importantes.
Des problèmes sociaux qui ne sont pas forcément non plus à l'ordre du jour de la présidentielle actuelle.
Voilà, exactement, oui, oui, tout à fait.
À l'heure où en plus les prix du carburant et de l'énergie augmentent, comment en tant qu'association environnementale vous vous positionnez par rapport à ça ?
Alors là, actuellement, sur l'augmentation du prix des carburants et tout ça, on va voir les conséquences que ça va avoir. On sait que la crise des gilets jaunes, elle a démarré. Ça a été un catalyseur de d'autres problèmes, mais sur le thème du carburant. Là, dans un premier temps, par exemple, sur l'Ukraine, les gens se sont mobilisés, ont été très touchés par ce qui se passait à l'Ukraine, alors qu'ils n'ont pas été très touchés par ce qui se passait en Syrie ou à d'autres périodes récentes.
En même temps, ce sont des Européens, c'est pas le...
Voilà, oui.
En tout cas, c'est comme ça que c'est vu par toute une population assez à droite, on va dire.
Oui, oui. Et donc, sur le carburant, bon, l'augmentation des carburants, c'était évident qu'on va être obligé d'aller vers... vu la raréfaction qui va se produire sur toutes les énergies fossiles, il est évident que tous ces prix vont augmenter. Donc justement, la réponse sociale, elle va être obligée d'être faite par rapport à ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour les petites gens, pour ceux qui n'auront plus pas les moyens de pouvoir répondre à ces problèmes qu'on va avoir d'énergie, de chauffage, etc., etc.
Et vous, à la Fédération des Grands Causses, en dehors des marches pour le climat, vous êtes sur un travail de réflexion le reste de l'année ?
Oui, on essaie d'être attentif à tous les problèmes concernant justement la planète et également évidemment les grands causes, puisque à l'origine la Fédération des Grands Causses a été créée au moment de l'affaire du Larzac par des militants environnementaux locaux. Et donc c'est une fédération d'associations. Et de particuliers et de gens qui se sentent concernés. Et donc, on essaie d'agir tout au moins comme des lanceurs d'alerte, si on ne peut pas faire plus, et donc essayer de modifier, de faire modifier tout ce qui peut avoir un danger pour l'environnement, que ce soit local ou que ce soit à l'échelle de la planète.
Et vous êtes nombreux à la Fédération des Grands Causses ?
Alors bon, disons qu'on est plusieurs cercles concentriques. On est, disons qu'une vingtaine ou une trentaine de militants qui se réunissent régulièrement. Et puis ensuite, bon, de par le fait des associations qui sont membres de la fédération, nous avons des cercles concentriques de gens qui sont sensibles à notre action et qui soutiennent notre action et qui, là, sont bien plus nombreux.
Et à la Fédération des Grands Causses, vous avez encore de l'espoir ou vous êtes dans la fatalité par rapport au changement climatique ?
Ben disons qu'il ne faut pas être dans la fatalité, parce que si on est dans la fatalité, on ne fait plus rien et on est sûr que le coup de gourdin sur la tête, on va l'avoir, quoi.
Et donc, vous continuez à préparer d'autres choses après la marche pour le climat ?
Oui, puisque de toute façon, toute l'année, nous avons des actions. Nous avons des actions sur des problèmes locaux qui peuvent être aussi bêtes que l'ancienne décharge du Roubellier, que les problèmes de l'eau.
Oui. Les bassins de rétention d'eau de la 75.
La situation des rivières, etc., etc. Tous les problèmes.
L'implantation d'éoliennes, photovoltaïques, etc.
Oui.
Oui, parce que l'environnement, ça, c'est au niveau national, mais il y a plein aussi de petits problèmes, on va dire, locaux.
De problèmes
aussi.
Locaux, oui.
Et c'est là-dessus aussi que vous travaillez au fil de l'année, ouais.
On se pose des questions par rapport aux installations d'éoliennes un peu partout et n'importe comment. On se pose des questions par rapport à tout un tas de problèmes qui ne sont pas faciles parce que les réponses ne sont pas simples, quoi.
Tu parlais des éoliennes, du coup, pour toi, l'éolienne, c'est pas forcément la solution face au réchauffement climatique en termes d'énergie renouvelable ?
Non, pas forcément, non. D'abord, c'est une énergie intermittente. Et donc, c'est pas ça qui va résoudre nos problèmes électriques. Donc, on compense les éoliennes par quoi ? Par des centrales thermiques ou des centrales nucléaires. Et donc, c'est pas forcément la seule solution. Alors, on dit pas qu'il faut absolument pas d'éolien.
Ouais.
Mais ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait, la manière dont on le fait. Ne pas installer le système actuellement, c'est nous qui payons les éoliennes, parce que c'est l'État qui subventionne à mort l'installation d'éoliennes. Est-ce qu'il faudrait pas, par exemple, mieux encourager l'isolation thermique des maisons? Subventionner les gens pour qu'ils
isolent. Il y a eu un certain nombre de subventions pour ça, pour l'isolation notamment.
Oui, mais peut-être pas suffisamment, puisqu'on sait que en France, il y a très 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 peu. Bon, il y a énormément de passoires thermiques, et donc c'est là où est le vrai problème.
Et à Millau, il y en a vraiment énormément, même dans le centre-ville.
Oui, certainement, puisque le centre-ville Millau est une des villes les plus pauvres de l'Aveyron, je crois, après les Casseville. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des situations d'insalubrité importantes. Donc tous ces gens-là, il faut les aider.
Et toutes ces thématiques font partie donc de vos travaux de réflexion.
Voilà. Sauf que si vous voulez faire isoler la maison des gens des gens et tout ça, il n'y a pas de lobby qui existe pour ça. Par contre, les éoliennes et tout ça, c'est les grandes entreprises qui les installent et c'est très juteux pour tout un tas de monde.
Eh ben merci à tous les deux. Vous voulez peut-être rappeler quelques infos pratiques pour la marche de samedi?
Alors samedi, c'est à 14h sur la place de la Capelle, que tout le monde connaît, dans le sud d'Aveyron.
Eh bien, merci à tous les deux. Et on le rappelle, la Fédération pour la vie et la sauvegarde des grands causes organise donc cette marche pour le climat ce samedi 12 mars à 14h, place de la Capelle. L'actu sur un plateau, ça continue sur Radio Larzac. Et après autant de gravité, on a besoin de se détendre un petit peu. Donc allez, Basile, je te laisse nous apporter un peu de légèreté dans cette émission.
La chronique musicale. Dans l'actu sur un plateau, sur Radio Larzac.
Ah, c'est bon, j'ai un micro. Salut Quentin, ça va?
Ouais, nickel, et toi?
Ça va, j'ai rien préparé.
Bon, bravo Basile.
J'ai fait un papier, j'ai marqué un seul mot, c'est juste des lettres. C'est les lettres de l'artiste dont je vais vous parler, enfin du prénom de l'artiste.
Tu nous as écrit l'alphabet?
Non, j'ai pas écrit l'alphabet, j'ai pris que quelques lettres, il y en a même que j'ai mis plusieurs fois, enfin bref, laisse tomber. Mais j'ai pas écrit grand-chose parce qu'en fait, je suis fatigué, voilà. Mais je voulais nuancer un peu avec toute cette actualité et toute l'émission que tu viens de faire. C'était très intéressant, mais c'est pas très joyeux, malheureusement. Pour l'instant. Et donc du coup, je me suis replongé un peu là. Ces derniers temps, il fait pas très beau. L'automne arrive, mais à petits pas. On a encore le temps. Et en fait, je me suis replongé dans mes souvenirs de ce que j'écoutais les étés passés, les deux derniers étés qui sont passés. Et j'ai retrouvé un morceau dont je voulais parler dans ma première chronique. Et après, j'ai oublié. J'ai fait autre chose. Je sais plus ce que j'avais fait. Et en fait, je l'ai réécouté. Ça m'a détendu. J'avais l'impression d'être en vacances, alors que j'ai pas de vacances à Radio Larzac.
On est tellement des exploiteurs.
c'est pas gentil. Mais en tout cas, pas grand chose à dire. C'est un artiste qui s'appelle Gessler ou Gessler, je sais pas comment ça se prononce. En fait, il est pas connu. Et il fait de la disco. C'est pop un peu, mais c'est de la disco et c'est assez léger, mais c'est très bien fait. C'est très bien produit. C'est très agréable à l'oreille en tout cas. Et c'est très détente en fait. On se laisse porter. Il y a deux morceaux qui sont vraiment cool que j'aime bien, que j'ai retenu de lui. Il y a celui qu'on va écouter qui s'appelle Les Vagues Bleues. Je te laisse imaginer. Quelle ambiance c'est.
Les vacances.
Ouais, et il y en a un autre qui s'appelle Très Disco et qui est très cool. Pour le coup, allez l'écouter, Gessler, G-E-S-L-E-I-R. Voilà, c'est ça que mon papier m'a servi. Tout de suite, on écoute Les Vagues Bleues de Gessler dans l'actu sur un plateau.
On a bien mérité des vacances, un morceau de soleil blanc, dans un bout de ciel bleu. Donc on s'entasse dans une vieille bagnole et on se barre vite vers des eaux sableuses. Il faut s'enfuir loin des autres et loin des averses qui s'acharnent sur les touristes. Le monde est si froid loin des côtes, pour un peu de chaleur on pourrait tout risquer. Y'a pas celle dans la radio, grand sourire devant les radars. On file vers quelque chose de brillant,
On file et on ne s'arrêtera pas. Les yeux rougis, les os salés, le cœur qui bat, les vagues bleues, l'esprit serein, les nuages solitaires. Sous ce soleil, on se sent un peu mieux. Les yeux rougis, les os salés, le cœur qui bat, les vagues bleues, l'esprit serein, les nuages solitaires. On se sent un peu mieux. Déjà le sable s'est invité partout. Des morceaux de bord de mer étalés sur le parquet. Jusque tard on se moque de tout le monde. Et quelques bouteilles vides se bousculent par terre. Le monde paraît si doux dans ce paysage. On se laisserait presque mourir avec les fleurs. On fredonne doucement de vieilles chansons. On croirait presque toucher le bonheur. Y'a Parcells dans la radio. Un grand sourire car tout est radieux. Au-dessus quelque chose de brillant. Devant rien que les vagues bleues. Les yeux rougis, les os salés. Le cœur qui bat, les vagues bleues. L'esprit serein, les nuages solitaires. Sous ce soleil, on se sent un peu mieux. Les yeux rougis, les os salés. Le cœur qui bat, les vagues bleues. L'esprit serein, les nuages solitaires. Sous ce soleil, on se sent un peu mieux. Sous ce soleil, on se sent un peu mieux. Les yeux rougis, les os salés. Le cœur qui bat, les vagues bleues. L'esprit serein, les nuages solitaires. Sous ce soleil, on se sent un peu mieux. Les yeux rougis, les os salés. Le cœur qui bat, les vagues bleues. L'esprit serein, les nuages solitaires. Sous ce soleil, on se sent un peu mieux.
Merci Basile pour cette chronique. L'actu sur un plateau, ça continue sur Radio Larzac. Et oui, l'actu, ça ne s'arrête jamais. Le planning familial de l'Aveyron organise une soirée ce samedi 12 mars pour le lancement d'une caisse de soutien aux IVG hors délai.
L'invité de l'actu associative.
Nous sommes par téléphone avec Sandy du planning familial. Bonjour.
Bonjour.
Peux-tu nous présenter un petit peu cette soirée du 12 mars ?
Oui. Alors du coup, c'est une soirée qui aura lieu à la ferme du Prégrand. Donc c'est un collectif qui vit là-bas, à côté de Morlon-le-Haut. Et donc l'idée de créer une caisse de soutien aux IVG hors délai. Donc l'initiative, c'est les plannings familiaux des zones rurales, donc Lozère, Ardèche, Aveyron, qui a eu l'initiative. Et en fait, le Prégrand nous a proposé de lancer cette soirée pour nous aider à lancer cette caisse de solidarité. Et donc la soirée, c'est ça commence à 15h avec une discussion sur la contraception masculine. Donc c'est une discussion entre gars. Et après, ça ouvre au public à partir de 17h avec la projection d'un film un documentaire qui fait un état des lieux un peu de l'IVG en France aujourd'hui, et un documentaire France 5. Et ensuite, débat et un petit concert à la suite. Voilà. Concert et boum.
Et peux-tu nous détailler un petit peu à quoi va servir cette caisse de soutien ?
Alors, la caisse de soutien, c'est parce qu'en fait, on estime qu'en France, il y a entre 2000 et 5000 femmes qui partent à l'étranger au niveau national tous les ans pour se faire avorter, pour pratiquer une IVG. Et en fait, alors nous, en zone rurale, ça va être une à deux femmes par an qu'on soutient dans cette démarche, donc des femmes plutôt précaires, enfin, en tout cas qui n'ont pas les moyens. Un avortement à l'étranger, donc jusqu'à présent, nous ici, ça se passait en Espagne. Mmh. Et donc le coût moyen, ça va être 1 500 € par personne, en sachant que ça prend en compte le trajet, l'hébergement sur place et voilà, l'accompagnement. Et donc pour des femmes qui n'avaient pas du tout les moyens, en fait le planning, jusqu'à présent c'était le planning de Toulouse, en fait, qui nous permettait de les aider.
D'accord.
Ils nous donnaient, voilà, en moyenne entre 1 500 et 3 000 € par an. Et en fait, on s'est dit, bon, bah, plutôt que de solliciter toujours le planning de Toulouse, on va essayer, nous, de créer cette caisse de solidarité pour nous, nos territoires ruraux. Donc, c'est une caisse de solidarité interdépartementale et pour pouvoir aider ces femmes.
Et afin que ce soit un petit peu plus clair pour tout le monde, cette question de l'IVG hors délai, je te propose qu'on revienne un petit peu sur le délai légal en France, qui a changé tout récemment en plus.
Voilà, en fait, il y a eu la loi du 2 mars, là, qui vient de passer, donc il n'y a pas encore le décret, hein, donc c'est pas, et des fois le décret, ça met un peu de temps, mais en tout cas, il y a la loi du 2 mars 2022, là, qui vient de prolonger les délais, donc on est passé de 12 à 14 semaines de grossesse, et 14 à 16 semaines d'aménorrhée, donc l'aménorrhée, c'est le début des règles. Mais en tout cas, voilà, on est passé de 12 à 14 semaines de grossesse. Ça va changer des choses parce que du coup, 14 semaines de grossesse, en général, bon voilà, il y a des femmes qui pouvaient mettre, pour plein de raisons différentes, qui pouvaient mettre un petit peu de temps à se rendre compte de cette grossesse. Et effectivement, le fait de passer de 12 à 14 semaines, on pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'auront plus besoin de partir à l'étranger, du coup. Mmh. Et après, voilà, donc nous, on avait organisé cette soirée avant, et en fait, on ne sait pas trop comment ça va se passer. De toute façon, le temps que le décret passe, ça va mettre du temps aussi. Mais ce qui risque de se passer, c'est que les femmes qui dépassent ce délai devront aller plus loin. Donc là, on va être sur les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, donc ça risque de coûter encore plus cher pour des femmes qui dépassent ce délai. Et on imagine qu'on en aura moins de toute façon, mais voilà, ça on va voir un peu.
Au planning familial, c'est donc un peu une victoire pour vous, cette nouvelle loi ?
Tout à fait. C'est une grande victoire. C'est pas que ça, la loi, ça permet aussi, en fait, les sages-femmes dans les hôpitaux vont pouvoir aussi pratiquer les IVG instrumentales, alors que pour l'instant, elles étaient autorisées simplement à accompagner les IVG médicamenteuses. Les IVG médicamenteuses, c'est jusqu'à... Avant le Covid, en fait, c'était jusqu'à 5 semaines de grossesse. Pendant le Covid, ils ont déjà prolongé les délais, mais au même moment, aujourd'hui, ça a été gardé, c'est officialisé que ça peut être jusqu'à 7 semaines. Et il va même y avoir la possibilité, en fait, que ce médicament soit accessible par une téléconsultation et ensuite que les pharmacies puissent délivrer ces médicaments. Et donc, ce sont deux médicaments qui doivent se prendre un premier, puis 48 heures après, un deuxième. Et en fait, le premier, jusqu'à présent, devait se prendre devant le soignant, la soignante. Et donc ça, c'est pareil. Les femmes vont pouvoir procéder à cette IVG médicamenteuse à domicile. Et ça va changer beaucoup de choses parce que dans nos territoires ruraux, on a beaucoup de, par exemple, des jeunes femmes sans permis qui sont à une heure de l'hôpital ou des choses comme ça. elles vont pouvoir, par la téléconsultation, et avoir accès aux médicaments dans les pharmacies et par la téléconsultation par ordonnance. Donc ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses sur nos territoires ruraux. Ouais.
Et au niveau européen, cette durée légale pour les IVG varie un peu d'un pays à l'autre. Il n'y a pas de normes.
Alors il y a ça varie la moyenne c'est 13 semaines.
Oui.
En Espagne c'est aussi 14 semaines, en Suède c'est plutôt 18 semaines, au Royaume-Uni on est sur 24 semaines. Et après on a aussi il y a Malte pour qui l'IVG est totalement interdit, il y a la Pologne et la Hongrie qui sont en train de régresser. Donc voilà, on a des tendances qui sont un peu différentes, mais en tout cas voilà, ici en France ça a été une grande avancée.
Des durées légales pour les IVG, donc assez variées, d'où ma question, à partir de quel moment on peut considérer que c'est un être humain, du coup ? Puisque la norme est varie un petit peu, on va dire, entre les pays.
Oui. À partir du moment où il est viable, on va dire, à partir de 6 mois pour des grands prématurés avec toutes les difficultés que ça peut être. Mais en tout cas, aujourd'hui, on arrive à, quand on a des grands prématurés de même 5 mois et demi qui naissent, on arrive à ce qu'ils vivent. Donc voilà, on pourrait dire ça. Après, ça, il y a des questions d'éthique et il y a beaucoup de débats sur ces questions-là.
Oui, c'est des questions éthiques, scientifiques, qui sont débattues depuis très longtemps et qui n'ont jamais véritablement été tranchées.
Oui, mais en tout cas, un fœtus avant 6 mois n'est pas viable.
Ça, c'est sûr, en tout cas.
Oui, voilà.
Eh bien, merci Sandy. Peux-tu rappeler peut-être un peu les infos pratiques pour ce samedi ?
Alors du coup, ça se passe à Morlon, le Haut. À partir de 15h, c'est la ferme du Prégrand. Il y aura des panneaux qui indiquent l'événement. Et à partir de 15h, de discussion entre gars sur la contraception masculine, la contraception thermique, du coup. Et ensuite, à partir de 17h, ouverture au public avec la projection d'un documentaire France 5 sur l'état des lieux de l'IVG en France aujourd'hui. En sachant qu'effectivement, il a été réalisé avant la loi du 2 mars, et donc tout le débat qui aura lieu ensuite pourra un petit peu recadrer. Et
enfin, ça permettra d'ouvrir aussi un peu le sujet.
Voilà, ça va ouvrir le sujet, c'est ça. Et donc l'idée, c'est de parler de toutes ces questions-là, de voir comment on peut organiser cette caisse de solidarité, qui peut être solidaire de ça, et d'essayer de trouver différentes aussi stratégies pour récolter des dons, parce que effectivement cette caisse, elle se fera sur la base de dons.
Oui.
Puisque évidemment on peut pas demander aux institutions de financer ce genre de caisse de solidarité.
Et l'entrée de la soirée sera payante du coup ?
Non,
par contre.
Oui, c'est gratuit.
C'est gratuit, mais comme ça les personnes auront davantage d'argent pour faire des dons.
Exactement.
Et ben merci à toi, et on arrive bientôt au terme de cette émission, mais on va respirer un petit peu avant de se quitter. Enfin, respirer, c'est un bien grand mot. Allez, René, c'est à toi pour ta première chronique.
Mais bonjour à tous, ils viennent enfin de me déligoter et de m'enlever mon baillon. De me débaillonner, quoi. Je sais pas si c'est une tradition de bienvenue, un rite initiatique ou un bizutage quand on fait sa première chronique, mais c'est particulier. Déjà que je suis stressé, en plus le baillon, c'est une chaussette de Quentin quand il fait ses marathons. Car oui, messieurs, dames, Quentin, ou Monsieur Quentin, comme il m'a dit qu'il voulait que je l'appelle, est un grand coureur. Le dernier marathon, je sais pas quand c'était, mais ta chaussette, elle sent bien plus forte qu'un roquefort AOC qui s'affine depuis 12 ans dans la cave de la radio. Bonjour l'odeur. Pour les mouches, c'est radical. Et pour les enfants et les seniors, seniors, c'est pour pas dire aux vieux. C'est plus sympa. Car je vois déjà des auditeurs qui se disent « Le nouveau, il parle espagnol !» Car oui, senior en espagnol, ça veut dire monsieur. Donc je suis bilingue indirect, peut-être. Bref, pour les gosses et les vieux, c'est toxique, la chaussette de Monsieur Quentin. Niveau sport, j'en fais un peu, mais plutôt en mode passif. Je me colle à la terrasse d'un bistrot bien exposé, et là, je regarde dans le ciel tous les parapentistes qui volent. Ça fait travailler la nuque, tous leurs virages. Le conseil, c'est de régulièrement remettre la tête dans son angle d'origine, c'est-à-dire 90 degrés avec le corps. Sinon, c'est le torticolis garanti. J'ai entendu beaucoup de discussions de sportifs. Même si j'y connais rien, je peux en parler des heures. Mais bon, j'ai pas trop envie. En plus, avant l'émission, on m'a déjà obligé de monter une botte de paille jusque dans le studio. Ça compte pour du sport, non? Car oui, messieurs, dames, je suis assis sur une botte de paille. Je sais pas si ça fait aussi partie du rituel d'accueil, mais comme fauteuil, c'est plutôt confortable. Ça pique, mais c'est agréable. Ça détend le fessier, ça vaut une bonne séance de yoga du postérieur. En plus, c'est gratos. Et la botte de paille dans le studio, c'est super pratique. Ben oui, pour nourrir la brebis de la radio. La brebis qui a sur le logo. Elle existe vraiment? Si, si, elle est juste à côté. Bé. L'été, on la tond, et avec la laine, qu'est-ce qu'on fait? On fait des t-shirts Radio Larzac, bio et rouge. Bien sûr, quand on la traite chaque matin. Et bientôt, il y aura des fromages sur le marché. Un conseil, méfiez-vous quand même, car l'odeur, c'est pas celle du fromage. C'est celle des chaussettes de Monsieur Quentin après un marathon. Juste de parler de sport et aussi de fronton, mais ça me donne faim. Ah non, en fait, c'est l'heure du repas, c'est pour ça, mais bon appétit à tous.
Eh, mais il est super poli, le nouveau. D'ailleurs, comment il s'appelle?
Ah oui, j'ai oublié de me présenter tellement que je suis stressé. Je respire fort, c'est un moyen pour oxygéner mon cerveau, car il me semble un peu perdu dans la brume matinale, même si c'est déjà midi passé. La respiration forte, c'est un peu comme les antibrouillards sur les voitures, ça permet d'y voir plus clair. Oui, il faut que je me présente. Je m'appelle Renez, je suis venu avec mon vélo, de Sévérac. Le vélo est à l'arrière de la camionnette. Un temps, je m'étais lancé dans l'élevage de poulets en latex. Pratique pour l'entretien, mais niveau rendement pour la ponte, c'est zéro. Zéro œuf en 7 ans. Un échec, même si j'aime beaucoup les animaux, morts ou vivants. Puis j'étais fakir. Je m'amusais avec des objets dangereux qui piquent, je me mettais des trucs dans le nez, mais ça c'était bien avant la mode du vaccin, et actuellement je suis guide autogéré. Je peux vous guider n'importe où. Je suis un spécialiste généraliste. J'aurai sûrement l'occasion de vous faire une démonstration lors d'une prochaine chronique, Inch Quentin. Bon, revenons à nos moutons. Oui, et aussi à la brebis qui écoute la radio comme sur le logo de la radio. Ben, c'est quand même étrange d'une brebis avec un casque sur les oreilles. C'est bizarre, mais pas tant que ça. Car nous aussi, on est déguisés dans le studio. C'est carnaval. La 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 la. Moi, je suis déguisé en tigrou. Quentin en magret de canard, et à la technique, c'est un beau costume de banane. J'ai pas froid du tout en tigrou. Et en plus, j'ai mis une peau de mouton. Ça fait un animal original. Vous pouvez nous voir grâce au super système de caméra de la radio. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de caméra? Et ça devant là, c'est quoi? Un micro? Waouh! Pourtant, moi, je regarde beaucoup d'émissions de radio sur Internet. Par contre, j'écoute beaucoup de films d'horreur quand je me promène en forêt. Ça crée une ambiance, un climat d'aventurier, et sans parler des chasseurs. C'est la cerise sur le clafoutis. Entendre siffler les plombs, ça me rappelle quand j'étais fakir. T'es ce matin, en venant, les flics ils m'ont arrêté. J'étais habillé en tigrou avec la grosse tête et tout. Pour regarder l'angle mort, c'est clair que c'est pas évident. Je leur ai dit que je travaillais dans le cinéma, alors ils m'ont laissé tranquille. J'ai quand même dû leur signer un autographe. J'ai pas pu faire autrement, et je vous ai dit, pendant 7 ans, j'ai élevé des poulets, alors c'est la nostalgie qui refait surface. L'autre jour, c'était mardi gras. Quel repas j'ai pas fait! En entrée, tête de veau, bim! Puis burger à l'ego, bim! Puis lapin en chocolat à l'eau de vie en dessert, bim, bim, bim! C'était un mardi gras, maxi gras au carré. Alors pour faire un marathon après ça, si, un marathon de la sieste, pas mieux, mais efficace. Pourquoi Monsieur Quentin s'approche de moi? Avec sa chaussette à la main? Non, il va me rebâillonner, et j'ai même pas pu parler de mon sujet sur le coup farci de vautour, ainsi que des tripous de vautour, ainsi que de la gelée de vautour, ou même de la tourte vautour. Bon, ben à bientôt, j'espère que c'était Renez.
Dommage Renez, mais c'est l'heure, l'actu sur un plateau, c'est déjà fini pour cette semaine. Merci quand même pour ta chronique, hein. Merci également à nos invités, la Fédération pour la vie et la sauvegarde des Grands Causses, Sandy du planning familial, et merci à nos chroniqueurs qui nous ont permis de respirer un peu entre tous ces sujets hyper sérieux. Dans quelques instants, vous pourrez réécouter cette émission sans modération en podcast sur le site de la radio radiolarzac.org, et on se retrouve jeudi prochain à midi pour le direct, et vendredi à 19h pour la rediff. Belle fin de semaine à toutes et à tous.
L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.